Bonjour à tous. C'est bon? Oui? Non? Vous m'entendez? Bonjour à tous. Bien que je vous ai déjà salué à l'arrivée, je voudrais le refaire encore une fois. Merci d'être là, puisque plus l'on est, eh bien plus les louanges et les prières montent facilement vers le Seigneur, en sachant qu'elles ne restent pas sans réponse. Donc tout à l'heure, Vincent, notre pasteur, nous parlait du départ de Charlotte. Moi, je voudrais avoir une pensée, une prière pour sa famille. Charlotte, on sait qu'elle est dans les bras du Seigneur, mais je pense que je ne connais pas sa famille. Il y a peut-être parmi elle, parmi ces personnes, des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur et qui, aujourd'hui, sont dans la peine, mais aussi dans la question, dans la réflexion. Elle qui était proche du Seigneur, pourquoi il l'a rappelée si tôt? C'est souvent les pensées que les personnes qui ne sont pas chrétiennes peuvent avoir. Alors Seigneur, je voudrais te remettre cette famille qui est dans la souffrance, dans l'interrogation. Seigneur, je sais que les prières que l'on t'adresse avec sincérité, avec foi, ne restent pas sans réponse. Alors Seigneur, je te demande de toucher ces personnes qui ne te connaissent pas encore. Oui, ces personnes, cette famille de Charlotte, qui sont dans l'interrogation, touche-les, ouvre leur cœur, ouvre leur esprit, leurs yeux et leurs oreilles. Et puis pour ceux qui te connaissent déjà, eh bien qu'ils soient fortifiés et qu'ils persistent dans le chemin que tu leur as tracé. Oui, que cet événement ne soit pas l'occasion de trébucher, de se poser cette question, mais vraiment de les fortifier en sachant que Charlotte t'a rejoint. Oui, Seigneur, je t'adresse cette prière dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est vrai que je le dis souvent, nous vivons dans un monde compliqué, difficile, éprouvant, dans un monde difficile à comprendre. Et c'est vrai que l'on ramène régulièrement tout à nous. On a un petit bobo. L'attention doit être sur nous. Souvent, on ne regarde pas les autres. C'est vrai que l'on a souvent l'impression, la sensation, le sentiment que les épreuves que l'on vit, que les situations que l'on vit, nous sommes les seuls à les vivre, à les endurer. On a le sentiment d'être seul et face à nous, on ressent de l'indifférence. Alors tout à l'heure, au début, j'ai employé le mot monde pour ne pas dire nous sommes dans une époque. Dans une époque où tout est difficile. Je pense que de tout temps, ça a été comme ça. Alors moi, je voudrais vous montrer que les situations que nous vivons ou que l'on côtoie par l'intermédiaire d'autres personnes, des personnes qui sont dans nos connaissances, que ces situations ne sont pas liées à une époque. Alors, je vais vous demander pour les personnes qui sont un peu plus âgées, entre deux âges, je dirais, de revenir un petit peu en arrière et de vous poser la question, est-ce qu'un jour, vous n'avez pas dit à vos parents, à vos proches, mais vous êtes d'une autre époque, vous ne pouvez pas comprendre? Vous l'avez dit, moi je l'ai dit à mes parents. Ma situation, mais vous, c'était. Maintenant, c'est différent. Alors, si vous ne l'avez pas dit, bon, je suis un peu étonné. Et puis, pour ceux qui ont des enfants, Eh bien, ils vous l'ont sûrement dit. S'ils ne l'ont pas encore fait, ça va venir. Hein. On ne peut pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Alors, je crois qu'en fait, un jour ou l'autre, dans notre existence, on ne comprend pas et l'on pense être incompris. Ou l'on pense être compris et l'on ne comprend pas lorsque l'on n'est pas compris. C'est un imbroglio là, mais je pense que c'est vraiment une vérité. Alors on va aller dans Acte 7, le verset 25. C'est le passage où on nous rappelle que Moïse a frappé l'Égyptien qui maltraitait un de ses frères. Et qu'est-ce qu'il est dit à ce sujet, au sujet de Moïse ? Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait le salut par sa main. Mais eux ne comprirent pas. Vous voyez déjà, là, entre frères, il y a une incompréhension. Alors, moi, maintenant que je chemine avec Jésus-Christ, chaque jour de ma vie, lorsque je rencontre une personne, qu'elle soit de ma famille ou une rencontre occasionnelle, quand cette personne se lamente, car elle pense être incomprise suite à la situation qu'elle vit, et cette personne, quand l'on parle, ces personnes, quand l'on parle, quand on échange avec elle, souvent on nous dit tu n'es pas à ma place, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas me comprendre, tu n'es pas à ma place, tu ne vis pas ce que je vis. Or moi, je me disais, mais qu'est-ce que je peux répondre à ça? Parce qu'effectivement, je ne peux pas être à sa place. Je ne suis pas à sa place. Qu'est-ce que je peux répondre? Alors je lui affirme que si je ne peux pas, en effet, me mettre à sa place, il existe une personne, et cette personne, vous vous en doutez, c'est Jésus-Christ, qui, lui, la comprend parfaitement. Et que lui peut venir à son secours, quelle que soit la situation. Alors, ce que nous vivons, lui, Jésus, l'a vécu, l'a subi. Et quand je dis ça, devant cette affirmation, il y a de l'étonnement sur les visages. On me dit... Alors bon, il y a des non-chrétiens, évidemment, et on me dit, si Jésus a existé, c'est à une autre époque, 2000 ans en arrière. 2000 ans se sont écoulés, rien à voir avec maintenant, dans toute chose. C'est vrai qu'il y a pas, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, pas de voiture, pas d'avion, les communications étaient différentes, mais il y a des choses, des bases qui sont identiques. Alors, c'est vrai que, dans ce cas-là, je vois que ce que je dis est entendu, mais pas compris. Les gens entendent que Jésus peut venir à leur secours, mais ils ne le comprennent pas. Alors, on va aller dans Acte 28, le verset 26. Dans ce passage, donc Acte 28, verset 26, Paul nous rappelle... ce que Ésaïe a dit, vous entendrez bien et vous ne comprendrez pas. Et quand j'ai donné ces explications, quand je dis que Jésus peut venir à leur secours, peut les comprendre surtout, et là je dois remettre les choses en situation, expliquer, donner des explications. Leur donner des exemples. Alors je dirais, C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui fait que l'on ne puisse pas te comprendre? C'est quoi? Alors par exemple, je vais pas. En fait, je vais vous donner des exemples qui vont peut-être être. Il n'y aura peut-être pas de chronologie dedans. Pour les retrouver, il faudrait lire tous les quatre évangiles. Donc on ne va pas le faire, mais je vais vous donner les exemples et vous allez voir. C'est assez facile quand on lit la Bible, quand on la connaît, c'est assez facile de retrouver. Par exemple, une personne qui me dirait mais moi, je suis né d'une mère célibataire, bon, c'est courant maintenant, mais ça pose parfois des problèmes aux enfants. Une mère célibataire. Ben Jésus, lui, il peut comprendre cette situation. Marie, elle n'était pas mariée. C'était une mère célibataire. Une personne qui me dirait, tu sais, moi je suis d'une situation précaire, même je vis à la campagne. Il y a plein de choses qui ne me sont pas offertes, qui ne me sont pas accessibles. Je vis dans un lieu, je ne vais pas dire insalubre, mais dans des conditions particulières. Ah ben Jésus peut te comprendre. Il peut te comprendre, Jésus. Il est né dans une étable, au milieu d'animaux. Il peut te comprendre, il peut comprendre cette situation. Une personne qui me dirait, bah oui, mais tu sais, je vis maritalement. Marie et Joseph ne se sont pas mariés tout de suite. Cette situation, Jésus l'a, je vais pas dire l'a vécu, mais l'a ressenti. Il avait un beau-père. Il est né par la grâce de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Mais la vie terrestre qu'il a eue, son père officiel, enfin reconnu par l'être humain, c'était Joseph. Combien parmi nous, autour de nous, il y a de familles comme ça? Jésus, quand je parle de famille, j'allais dire reconstituée ou remariage, Jésus a donc des demi-frères, des demi-sœurs. C'est parfois des situations qui ne sont pas faciles dans les familles. Il y a des jalousies, il y a des préférences, il y a des incompréhensions, il y a des différences d'âge, des différences, j'allais dire intellectuelles aussi, d'éducation. Ben Jésus, lui, il connaît tout ça. Il l'a vécu. Bon, bien sûr, il était fils de Dieu, mais il a été fait homme et tout cela, il l'a vécu. Donc déjà, on peut, selon les situations des personnes que l'on a en face de nous, leur dire, mais si moi je ne peux pas te comprendre parce que je n'ai pas vécu ça, je ne peux pas me mettre à ta place. Lui, Jésus-Christ, il a connu ça. Peut-être d'une manière un petit peu différente, parce que ce n'était pas la même époque, mais ça y ressemble beaucoup, je trouve. Alors, on va me dire, ouais, mais moi je suis un étranger. Je ne suis pas dans mon pays. Ben, Jésus, c'est pareil. Son enfance, il a été obligé de partir en Égypte. Il n'était plus dans son pays. Là-bas, il était un étranger. On ne sait pas grand-chose sur ce qu'il a vécu là-bas, mais il était un étranger. Il était en Égypte. Alors, il y a des pays qui sont en guerre, des pays où il y a des génocides. Eh bien, Jésus a connu ça aussi. Bon, il était enfant, il était bébé. Je vous rappelle que tous les nouveau-nés ont été exécutés. Si ça, ça ne s'appelle pas un génocide. Donc lui, ça, il l'a ressenti. Il a été menacé de mort directement, dès son enfance. Une personne qui me dirait « mais je me sens seul, je me sens pas à ma place, parce que je suis surdoué. » Il y en a beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup. Il y en a quelques-uns comme ça qui sont dans des établissements scolaires et ils s'embêtent. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'écoles et de classes pour ces personnes-là. Eh bien, Jésus en était un. Je vous rappelle que lorsqu'il était allé au temple, pour la première fois, il a tenu tête au docteur. Il avait réponse à tout. Ils étaient étonnés. Alors ça, si ce n'est pas un surdoué, bon, je sais, c'est le Fils de Dieu. Mais tout de même, il a pu ressentir ça. Ce que des personnes soi-disant plus instruites, l'approche qu'il pouvait avoir par rapport à un enfant qui est surdoué, ça, il l'a vécu. Il s'est sûrement senti seul, hein. Enfin, humainement, parce que, bon, je le rappelle, il était le Fils de Dieu. Il s'est sûrement senti seul quand il était face à tous ces personnes qui avaient, ces docteurs, qui avaient des connaissances en apparence supérieure. Alors, des fois, on a du mal quand on change de région, même en France, voyez. Vous allez en Bretagne, par exemple, bah, des fois, on a du mal à trouver sa place, hein. Vous descendez dans le sud, vous êtes bien reçu quand vous arrivez avec les billets pendant le mois de juillet et août, mais parfois, je peux vous dire que je suis allé... Enfin, c'est dans toutes les régions comme ça, hein. Je ne dis pas que le sud, c'est spécifique, hein, à ça. Là, des fois, voilà, je me souviens poser une question dans un magasin, la personne m'a regardé, elle a l'air de dire « mais d'où il vient celui-ci ce qu'il me demande ?» Et puis de ne pas répondre, on se sent un étranger. Ben, Jésus, c'est pareil. Quand il est revenu d'Égypte, il n'est pas allé dans son village de naissance, hein. Il est allé ailleurs, dans un, je ne me rappelle plus le nom du village où il est allé. Mais bon, je crois que c'était en Galilée et à Nazareth. Donc il a été appelé Nazaréen, bien qu'il soit Galiléen. Que peut-on trouver d'autre comme situation qu'il a vécue? Bah tiens, tout à l'heure, je parlais de Charlotte. On parlait de Charlotte. La douleur de perdre une personne de sa famille. Je vous rappelle que Jean-Baptiste, c'était son cousin, si je ne me trompe pas. Et en plus... Mais ils étaient très proches, très très proches. Et en plus, ils le perdent dans des conditions dramatiques. Hein. Je vous rappelle, pour moi, c'est un assassinat, hein, ce qui s'est passé. Hein. Donc ça arrive à une personne de votre entourage, je ne souhaite bien sûr pas à vous, mais vous rencontrez une personne qui vous dit un tel, mon neveu, mon cousin, mon frère a été assassiné. Nous, on ne peut pas le comprendre, ça ne nous est pas arrivé. On ne peut pas comprendre si ça ne nous est pas arrivé. Mais Jésus, lui, il peut le comprendre. Il peut apporter un soutien, une aide. Ça, il l'a vécu. Dans la même idée, je peux dire, perdre une personne proche, un ami auquel on est attaché. Ben Jésus, il y a Lazare. Bon, c'est sûr, après, il se rend chez Lazare et Lazare est ressuscité, mais quand on lui a annoncé cela, que Lazare était mort, il y a eu, d'ailleurs je crois que c'est même écrit, il y a eu une tristesse en lui. Il est triste. Bon, il sait ce qui va arriver, mais il est triste. Il a perdu un ami cher. Donc ça aussi, il peut le comprendre. Il peut consoler les personnes qui vivent ça. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, je parlais de surdoué. Quand on parle de surdoué, on pense systématiquement intellectuel. Mais Jésus, il peut comprendre les personnes dites manuelles. Je vous rappelle que Joseph était un charpentier. Et à cette époque, les enfants, ils aidaient les parents. Donc je pense que Jésus, il a pris le rabot, il a pris la scie et il a dû aider dans l'atelier. Donc les manuels, on peut les comprendre, on peut comprendre leurs difficultés. Et manier le rabot et la scie, puis d'autres outils, je pense qu'à la fin, les mains, c'était des mains d'ouvriers aussi. Il les a eues à un moment. Moi, ma maman, quand elle me parle de sa jeunesse, elle me dit, mais il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre parce que moi, quand j'avais entre 11 et 14 ans, il y avait l'occupation. Tu ne peux pas comprendre ça. Oui, mais Jésus, lui, il peut le comprendre. Il peut comprendre ça. Parce que là où il vivait, c'était sous occupation romaine. On ne se rend pas compte, hein, quand on lit comme ça les passages de la Bible, on ne se rend pas compte de tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a vécu. Moi, c'est quand j'ai compris ça, je me suis dit, oh là 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 là. Nous, on vit parfois une de ces choses. Lui, il les a toutes vécues. Et encore, ce n'est pas terminé. Hein. Puis vous allez peut-être en trouver d'autres. Vous allez peut-être me dire, tiens, tu as oublié ce passage-là. Alors, je pense au personnel médical, ceux qui côtoient tous les jours des gens dans la souffrance, des malades, des personnes blessées. Ben lui, il a fait que ça. Hein. Il n'a pas arrêté de se rendre auprès de personnes malades. Alors je ne sais pas ce qu'il ressentait, je n'étais pas à sa place, mais j'imagine, quand on passe son temps auprès de personnes malades, de personnes souffrantes, de personnes mourantes, bon, lui, il les guérissait. Mais à la fin de la journée, je pense qu'il faut avoir le cœur bien accroché, avoir une force. Et c'est vrai qu'on entend que autour de nous, qu'il y a des personnes qui sont dans le milieu hospitalier, ben, c'est dur pour eux, ils craquent. Ben, ces personnes-là, si vous les rencontrez, si vous les côtoyez, vous pouvez leur dire, on connaît quelqu'un qui a vécu la même chose que vous et qui peut vous venir en aide. Alors, moi j'ai eu une petite entreprise et puis j'ai côtoyé et je côtoie encore des chefs d'entreprise. Il y a pas mal de difficultés, hein. C'est pas facile. Alors vous allez me dire, mais est-ce que Jésus il peut comprendre un patron? Alors, Jésus, moi je, en lisant les textes, je me dis qu'il a été un patron d'une certaine manière. Il a été un patron quand il s'est retrouvé avec 5000 hommes face à lui, sans compter les femmes et les enfants, et qu'il a fallu les nourrir, il a dû prendre des décisions de patron. C'est-à-dire, il a dû montrer aux personnes qui travaillaient avec lui, les apôtres, les futurs apôtres, ce qu'il fallait faire. Ça peut paraître bizarre, mon rapprochement, mais je l'ai ressenti de cette manière-là. Il leur a dit, vous les faites asseoir par groupe. C'est déjà une directive. C'est une directive de patron, ça. Puis après, il leur a montré ce qu'il fallait faire. Il a pris le pain et il a rompu le pain. Il leur a dit, distribuez-les. Distribuez. Ça, c'est une action de patron. J'ai une autre pensée qui m'est venue là. Son premier miracle. L'eau transformée en vin. Même chose. Vous connaissez l'histoire. Et là, il a dû prendre des décisions de patron aussi. Parce que quand les personnes qui s'occupaient de la cérémonie, du repas, sont arrivées vers Marie et lui ont dit, il n'y a plus de vin. Elle a dit, allez voir mon fils, allez voir Jésus. Et lui, il leur a dit, vous prenez les jarres, vous les remplissez d'eau. Il a eu, je dirais presque qu'il a été comme un consultant, parce qu'il n'avait rien à voir, il était juste invité. Il est arrivé, c'était même un dépannage qu'il a fait. Mais il a eu une action de patron. Je ne parle pas de ses actions en tant que fils de Dieu, hein. Je rapproche ça de l'humain. Alors, c'est vrai que on côtoie des gens qui sont ambitieux. À certains, ça pose des problèmes, à d'autres, pas du tout. Mais cette tentation, cette envie, cette possibilité d'être puissant, eh bien, Jésus l'a connue. Il l'a connu, il l'était déjà parce qu'il était le fils de Dieu, mais Satan lui a bien proposé le monde et tous les peuples. Et il a dit non. De toute façon, il savait qu'il l'avait déjà. Mais c'est la manière dont c'était présenté. Donc cette tentation, cette envie d'être puissant, à des personnes qui sont dans ce cas, on peut leur dire oui. Vous n'êtes pas compris, je pense aux hommes politiques, vous n'êtes pas compris, mais Jésus peut vous comprendre et il peut vous guider. Et il peut vous dire, ta puissance, elle se limite, elle doit se limiter à ton pays. Et pas essayer de conquérir le monde comme le font certains. Alors pour moi, il y a aussi autre chose qui va vous paraître aussi peut-être surprenante là. Le parallèle que je fais, pour moi, si si on va dans des quartiers difficiles, que l'on rencontre des bandes, des gangs, on peut les remettre dans les mains de Jésus. Parce que pour moi, au début, Jésus s'est comporté comme un chef de gang. Pas pour faire des choses mal, hein, mais on peut être chef de gang pour des choses bien. Quand il avançait sur le rivage et qu'il interpellait les apôtres, il agissait comme un chef de gang. Il recrutait. Au début, il a été le chef d'une bande de 12. Alors, c'est vrai que je vais venir sur un point, j'espère que je vais pouvoir bien m'expliquer là-dessus, c'est celui de l'amour. Alors, c'est vrai que quand on parle de l'amour, on pense à l'acte sexuel. Mais je pense que ce n'est pas ça. L'acte sexuel, c'est un peu une conclusion, un point à la fin d'une relation. Et ce qui compte le plus, c'est la relation que l'on a avant. C'est ce qui se passe avant. Je pense que, oui, Jésus, il peut comprendre tous les tourments de l'amour. Parce que lui, il est allé jusqu'à donner sa vie. Et pourquoi il a donné sa vie? Parce qu'il a aimé d'un amour indescriptible, je dirais la race humaine. Alors, j'entends parfois autour de moi des personnes qui disent, mais voilà, j'ai été provoqué par un homme ou une femme, provoqué dans le sens, il y avait une attirance, et ben, j'ai pas résisté. Jésus, lui, il a résisté. Il a résisté. Il a aimé ces personnes, j'en suis sûr, mais il a résisté. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je vais essayer. Imaginez, alors là, je vais parler aux hommes. Imaginez, vous êtes assis à un repas, une femme arrive et elle répand sur votre tête un vase de parfum, rempli de parfum. Et les femmes, je vous demande d'imaginer ce geste. Ce geste, il est plein d'amour. Il est, j'allais dire, il est presque sexuel. Parce que elle n'a pas cassé le vase et puis elle l'a pas jeté comme ça. Il y avait quelque chose de... Imaginez, on vous lave les pieds et après, vos pieds sont essuyés avec des cheveux. Aïe, aïe, aïe. Là, je pense que Jésus, il a vécu une relation d'amour très forte. Ce que je veux dire, c'est que il peut y avoir des relations amoureuses entre, je mets des guillemets dans ce mot, entre ce mot, aux extrémités de ce mot, sans avoir d'acte sexuel. C'est comme ça que j'ai ressenti ces passages. Après, peut-être que vous aurez d'autres interprétations. Mais Jésus, il peut comprendre. Je me demande si les femmes qui ont fait ça, quelque part, il n'y a pas eu une frustration en se disant ça s'arrête là, quoi. On prouve notre amour. Jésus, il a prouvé le sien en prenant tous nos péchés sur la croix. Mais il peut comprendre cette situation. Une personne est entrée chez vous, chez votre voisin, et l'a volée. Ben Jésus peut comprendre ça aussi. Parce que Judas, qu'est-ce qu'il a fait? Il piquait dans la caisse, Judas. Cet argent, c'était à Jésus. Donc il a été volé. Il peut comprendre cette situation. De même, avec le même Judas, il a été trahi. Et combien d'entre nous ne se sentent pas un jour trahis par un proche en plus? Volé par un des 12. Ce n'est pas un voleur itinérant comme ça, c'est vraiment une personne que l'on côtoie. Ça me fait penser à des situations dans des familles lors de successions, justement, où il y en a qui passent. Moi, j'ai connu beaucoup de choses comme ça dans mon métier, où il y avait des discordes dans les familles. Bon, j'étais chargé de vendre les biens, les maisons, mais il y avait des objets précieux. Hop, il y en a un qui passait avant, il prenait ce qui était le plus beau et puis il laissait le reste aux autres et il demandait sa part sur le reste aussi quand même. Hein. Je me souviens d'une maison où il y avait des trous partout, dans les murs, dans le plancher, parce qu'il y avait soi-disant un coffret avec des pièces d'or dedans. Ils ne savaient pas où c'était et ils avaient passé au détecteur toute la maison. Et ils avaient détruit une partie de la maison pour... je ne sais pas s'ils ont retrouvé la cassette avec les pièces d'or, hein, mais voilà. Donc le vol entre proches, ça existe aussi. Est-ce que vous vous rendez compte que Jésus, il a été vendu pour 30 deniers, trahi et vendu? Oh, en parlant de proches, tiens, vous êtes amis depuis très longtemps avec une personne, vous le recevez chez vous, il y a vraiment une intimité entre vous et lui, et vous êtes dans la difficulté, et cette personne vous abandonne, vous laisse. Jésus l'a connu, avec Pierre qui l'a renié 3 fois. Donc cette situation, il la connaît aussi. Il peut comprendre. Je vais revenir toujours sur le mot comprendre. Il peut comprendre les situations que l'on vit ou que l'on peut vivre. Est-ce que vous avez déjà été accusé à tort? Jésus. Jésus peut te comprendre. Il peut te comprendre parce qu'il l'a vécu aussi, ça, être accusé à tort. Il y a eu des faux témoignages contre lui, ou des interprétations, notamment quand il est dit que des personnes témoignent comme quoi il reconstruira le temple en 3 jours. On a dit que c'était des blasphèmes. Bon, il parlait, vous le savez bien, de lui-même. Mais il y a eu des faux témoignages contre lui. Jésus a été accusé à tort et en plus il a été arrêté, bien qu'étant innocent. Il y a des personnes qui sont mises en garde à vue qui n'ont rien fait, mais elles sont en garde à vue. C'est une situation que j'ai jamais vécue moi-même. Jean-Robert serait là, lui, il nous avait expliqué qu'il avait été mis en garde à vue pour je ne sais plus quel problème, mais bénin. Mais il y avait quand même, comme il nous expliquait, le mot garde à vue l'avait fait tressaillir. Comment ça allait se passer? On me met en cause, j'ai rien fait, c'est stressant, c'est humiliant, c'est. Eh bien, dans ces cas-là, les personnes qui vivent ça, Jésus l'a vécu aussi. Et il peut le comprendre. Alors, il y a pire, parce que lui, il a été jugé, et puis il a été condamné, alors qu'il était innocent. Il y en a aussi des personnes comme ça dans les prisons, malheureusement. Sa famille aussi. Sa famille l'a délaissé. Il y a un passage où justement c'est dit, ils viennent et ils disent, mais c'est, je ne sais plus le terme. J'ai préparé ce message un peu vite et il y a des passages que je n'ai pas notés, mais je me souviens dans les Écritures, que c'est à ce moment qu'il dit « Mais ce n'est pas ma famille. » Parce qu'il... Oui. Mais en fait, moi, ce que j'ai ressenti dans ce passage, c'est que ils viennent... La famille vient, mais comme si il était un illuminé, quoi. En fait, ne l'écoutez pas, je l'ai ressenti comme ça. Et donc, voilà, on peut vivre cette situation. Et Jésus peut le comprendre. Alors, quoi d'autre encore? Ah oui. Jésus, il a été adulé, honoré, porté au nu, comme un champion, un héros. Et puis le lendemain, complètement délaissé. Et je pense qu'il y a des personnes qui vivent des situations comme ça, soit des hommes politiques, des champions dans le sport... Des héros parce qu'ils ont fait des choses fantastiques, ils ont sauvé des vies, ils ont pris des risques, ils font la une des journaux, donc ils sont portés au nu, et puis quelques temps après, ils sont complètement oubliés, et c'est pour ces personnes, ça doit être quelque chose de dur à vivre. Je me mets à leur place, vous êtes reçus avec honneur partout, et puis le lendemain, complètement délaissé. Eh bien, vous savez que des personnes qui vivent ça peuvent faire un burn-out à la fin, tomber dans la dépression. Jésus peut les comprendre et les secourir. Parce que ça, il l'a vécu aussi. Alors, je vais revenir sur sa condamnation. Vous savez que je crois que le pire, c'est que Pilate, quelque part, il l'a innocenté. Il a dit, je ne trouve rien de compromettant dans cet homme. Mais il s'est lavé les mains. Donc il a laissé condamner un innocent. Il a dit à tout le monde, il est innocent. Mais on le condamne quand même. Les personnes qui vivent cette situation, bien Jésus peut les comprendre puisque lui, il l'a vécu aussi. Alors, on ne vous a jamais insulté? vous ne roulez pas assez vite sur une route. Il y a un type derrière vous, ou une femme, hein, parce que bon, des fois, elles sont agressives au volant, hein, faut pas oublier, qui vous klaxonne, qui ouvre son carreau en vous injuriant. Il l'a été. Battu. Personne battue, homme ou femme, enfant, battu. Jésus peut vous comprendre, parce qu'il l'a été aussi. Torturé. Ah. Il l'a été aussi. La couronne d'épines, le fouet, la croix. Humilié. Je crois que l'humiliation, on y est tous passés, un jour ou l'autre. À notre enfance, à l'école, dans nos métiers. Et c'est peut-être encore ce qui peut nous arriver le plus souvent, être humilié. Lui, il l'a été. Il était le Fils de Dieu. Et on l'a humilié, mais alors d'une façon... On lui a craché au visage. Est-ce qu'on vous a déjà craché au visage? Ça fait un drôle d'effet, je peux vous dire. Je me demande même si c'est pas pire qu'un coup de poing. Bah lui, Jésus, il l'a vécu ça aussi. Victime de faux témoignages, je l'ai déjà dit. Il a été dépouillé de ses vêtements. Ça me fait penser aux personnes qui sont dans les rues et n'ont pratiquement rien à se mettre en hiver, qui ont des vêtements sales. Lui, qui ont été dépouillés de leurs biens, lui, il peut le comprendre aussi, il l'a été. Vous êtes dans la colère parce qu'on vous a fait quelque chose qui ne vous a pas plu. Jésus peut vous comprendre aussi. Parce que lui aussi, il l'a été. Ça peut paraître bizarre, ça, mais il l'a été. Il l'a été quand il a chassé les marchands du temple. Il était dans la colère. Ça a même été dans la violence, puisqu'il a pris des cordes, il en a fait un fouet. Donc les personnes qui vivent ça, j'imagine ce qui s'est passé à ce moment-là en lui. Quand il a vu ce qui se passait, il n'a pas pu se retenir. Bah, parfois, ça nous arrive aussi. Même si on est chrétien, moi ça m'est déjà arrivé. Une personne qui fait quelque chose qui n'est pas bien, j'ai envie de le frapper. Puis quand je réfléchis à ça, je dis mais je ne peux pas le faire. Mais je me dis, Jésus, il doit me comprendre à ce moment-là. Il a compris mon élan. Parce que lui, il l'a vécu. Aussi. Alors, je vais finir par une chose. Je l'ai rencontré régulièrement auprès de personnes qui, je dirais, avaient été nées d'une fille mère, c'est le nom que l'on donne, d'une femme non mariée, qui ne connaissent pas leur père. Qu'est-ce qu'ils font? Arrivés à un certain âge, ils recherchent ce père. Des fois, on se dit, mais bon, t'as ta vie, t'as fait ta vie, pourquoi tu veux chercher ton père? Il t'a abandonné. Pourquoi tu veux chercher ton père? T'as un père adoptif qui t'a aimé, qui... Eh bien, cette recherche, je vais vous dire que Jésus peut le comprendre aussi. Peut la comprendre, cette recherche. Parce que moi, quand on me dit que Jésus s'est isolé pour prier, Bien sûr, il savait qui était son père. Quand il s'est isolé pour prier, c'était pour se rapprocher de ce père, pour retrouver ce père. Donc cette situation, il peut aussi la comprendre. Il peut vous aider. Il peut aider les personnes qui vivent ces situations. Tout ce que je vous ai dit là, voyez, ça s'est passé il y a 2000 ans. Donc il n'y a pas d'époque. Il ne faut pas croire que ce que l'on peut vivre aujourd'hui, ça n'existait pas. C'était d'une autre façon, mais ça existait. Et lui, il l'a vécu. Et je pense qu'il a vécu tout ça, c'est justement pour nous comprendre et pour pouvoir nous aider. Alors après tout cela, si l'on me dit que Jésus-Christ ne peut pas comprendre, ben moi je ne comprends pas. Alors c'est vrai que je n'ai pas trouvé d'écrit disant qu'il nous comprend. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé, bon, je n'ai pas tout lu, j'étais un peu pris par le temps, mais je n'ai pas trouvé d'écrit où il nous dit, où c'est dit clairement. Mais je sais qu'une chose, c'est qu'il nous pardonne et nous soutient. Jésus, après avoir vécu tout cela, je dirais que Jésus n'a pas besoin d'affirmer ou de l'écrire qu'il nous comprend. Il n'a pas besoin de dire, je vais finir sur une note que je trouve amusante. Il n'a pas besoin de dire, comme le général de Gaulle l'a dit, il l'a fait à un moment de sa présidence, il s'est adressé, je crois que c'était à toutes les personnes qui habitaient en Algérie, il y avait les combats, et il s'est adressé à eux en leur disant « Je vous ai compris ». Mais il n'a rien fait par la suite. Lui, Jésus, il nous a compris. Et ce qu'il a fait, il est mort sur la croix pour nous. Or, pour moi, les faits sont là, ils sont bien là. Alors, quoi qu'il arrive, quelles que soient les situations que l'on vit ou que des personnes de notre entourage vivent, on peut leur dire, tournez-vous vers Jésus, tournez-vous vers lui. Jésus seul nous comprend et est notre secours. Il nous l'a prouvé sur la croix. Plus que nous comprendre, il est là pour nous aider. Pour nous soutenir, pour nous relever, quelles que soient les difficultés. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est que les personnes que vous côtoyez, qui ont ces problèmes, n'hésitez pas à leur donner tous ces exemples, ou celui qui se rapproche de ce qu'ils vivent. Jésus est leur secours. Il n'y a pas de situation que lui n'a pas connue. Voilà. C'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui et partager avec vous ce que j'ai ressenti en relisant tous ces passages de la parole. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Merci Marc pour cette exhortation. Je te laisse autre. Vas-y, prends ton temps. Équipe-toi.